Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette merveilleuse série concernant l'amour de Dieu. Et nous en sommes à l'étude numéro 14. Nous aurons deux titres très courts. Le premier, l'amour obéi. Et le deuxième, l'amour sauve. Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. » Saint Jean, chapitre 14, verset 15. Au verset 21 du même chapitre, il déclare, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Au verset 23, il ajoute, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Chers amis, nous vivons une époque de rébellion. Chacun cherche à frayer sa propre route. Cet esprit de révolte représente un grand danger. Ésaïe, chapitre 1, verset 20, nous dit « Mais si vous refusez et que vous soyez rebelles, vous serez consumés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est notre esprit de rébellion qui nous pousse à inventer des armes de destruction dont certaines sont si effroyables qu'elles sont tenues secrètes. J'ai du reste entendu parler d'une arme secrète qui serait si puissante que, simplement lâchée, elle pourrait anéantir toute la surface de la terre, et cela en environ 3 secondes, car elle consumerait tout ce qui contient de l'oxygène. À côté de ça, il est clair que la bombe à hydrogène et tous les autres ressemblent à une allumette. Voyez-vous, c'est la rébellion qui a détruit l'Iran, l'Afghanistan, le Cambodge, la Syrie et beaucoup d'autres qui s'attaquent à présent à l'Angleterre, à l'Amérique et à l'Europe. Personne ne veut être dirigé. Personne ne veut obéir ni se plier à une autorité et nous nous détruisons nous-mêmes par notre insoumission, notre révolte, parce que nous n'avons pas suffisamment d'amour pour obéir. En plus, tous les robots ultra sophistiqués qu'ils sont élaborés de plus en plus performants, cela enlève pas quelques ouvriers et ouvrières, non, cela enlève des millions de main-d'œuvre. Donc, il y aura un problème. Et le riche devient toujours plus riche, et le pauvre toujours plus pauvre. On entre maintenant même dans la grande pauvreté. C'est du jamais vu. Oui, le pire est à venir, c'est comme avec les inondations et les feux. Le pire est à venir. Voyez-vous, Dieu a donné beaucoup de promesses merveilleuses à ceux qui obéissent. Regardons-en quelques-unes, si vous voulez bien. Il est dit dans Ésaïe, chapitre 1, verset 19, « Si vous êtes de bonne volonté, et que vous écoutez, vous mangerez des biens du pays. » Dieu a donc promis prospérité et santé à ceux qui se soumettent. Notez Exode chapitre 20, verset 6. Dieu dit qu'il use de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jamais, jamais plus que maintenant, nous n'avons eu besoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Dans Exode, chapitre 23, versets 22 et 23, l'Éternel promet et il dit « Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et t'amènera devant l'Amoréen, et je les exterminerai. » Dieu s'engage donc à se battre du côté de ceux qui lui obéissent et à anéantir lui-même leurs ennemis. Notez Deutéronome, chapitre 4, verset 40. « Et garde ces statuts et ces commandements que je te commande aujourd'hui, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. » L'obéissance à Dieu, c'est le secret de la longévité sur cette terre qu'il nous a donnée pour l'éternité. Notez Deutéronome chapitre 11, versets 26 et 27. Là, il est dit, « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. » Donc, ces bénédictions sont fort nombreuses. Nous en avons la liste dans Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Notez également Deutéronome, chapitre 11, versets 14 et 15. Là, il est dit « Je donnerai la pluie de votre pays en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison, et tu recueillera ton froment et ton mou et ton huile, et je donnerai l'herbe dans tes champs pour ton bétail, et tu mangeras, et tu seras rassasié. Dieu contrôlera la météorologie de la nation qui l'écoute, évidemment. » Et il dit dans Saint Marc, chapitre 3, verset 35, « Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur, et même ma mère. » Jésus nous promet donc des relations familiales avec lui si nous faisons simplement la volonté de Dieu. C'est pas trop de demander la volonté de Dieu, vous êtes d'accord? Quand même, nous devons bien convenir que sans faire la volonté de notre Seigneur, c'est pas possible de pouvoir être béni. Je m'excuse peut-être de m'être un peu éloigné. Notez par exemple Saint Jean, chapitre 7, verset 17. Il est dit que si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra de la doctrine si elle vient bien de Dieu ou si moi, je parle de par moi-même. Donc Dieu accorde un discernement particulier à ceux qui accomplissent sa volonté, afin qu'ils sachent distinguer surtout les fausses doctrines. et accepter ainsi la vérité. Voyez-vous, nous avons un grand besoin de cette capacité à une époque où fleurissent tellement de cultes fallacieux, d'enseignements exclusifs, de certains versets qu'on prend pour en faire toute une théorie et on évite le contexte des autres versets qui compléteraient la compréhension biblique. Mais il y en a qui ont l'habileté de vous enseigner des choses qui peuvent être même contraires à la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, l'Écriture sainte doit s'équilibrer dans l'ensemble. Jésus a dit que si nous l'aimons et si nous gardons ses commandements, donc c'est important de l'aimer et de garder ses commandements, quels qu'ils soient. Quel était son commandement, par exemple? Premièrement, c'était de aimer. Nous sommes dans un monde de haine, c'est le contraire d'aimer. Jean chapitre 13, verset 34 déclare « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé et que vous aussi vous aimiez l'un l'autre. » Ça, c'est le commandement que Jésus nous a laissé. Il nous en a laissé aucun autre par ailleurs. Car toutes les lois de Dieu sont en quelque sorte contenues dans cette injonction « aimer ». C'est donc évidemment l'amour agapé dont il est parlé, ne pas confondre avec l'amour charnel. Satan, il veut imiter un bon nombre de choses, et il peut les imiter. Mais l'amour, il ne peut pas l'imiter parce qu'il est rempli de haine. Jésus a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. » Satan ne peut pas copier l'amour. Il peut, il est vrai, imiter même des miracles, oui, ça vous étonne peut-être, et même des prodiges. Par contre, il échoue complètement quand il s'agit d'aimer. C'est le signe par excellence que nous, chrétiens, devrions porter. C'est la véritable marque du disciple. Tous ceux qui payent ce prix et qui suivent Jésus, ils sont ses disciples. Cela veut dire obéir. Il est impossible d'être un disciple et désobéir, car Dieu sait que nous sommes nés avec une volonté. Et la plupart d'entre nous ont même une volonté très forte. Ce peut être notre plus grand ennemi, car une seule chose empêchera notre volonté de nous dominer et de nous détruire, c'est la volonté divine. Oui, réfléchissons à cela. Une seule chose peut empêcher notre volonté de nous dominer et même de nous détruire, c'est la sainte volonté divine. Quand la volonté de Dieu règne sur la nôtre et que les deux sont tournés ensemble dans une même direction, elles forment une équipe formidable et celle que le Seigneur peut utiliser pour renverser ses forteresses, les forteresses de l'ennemi. Ce n'est que en prenant notre croix et en soumettant notre volonté que nous prenons la place où Dieu peut se servir de nous pour remporter de grandes victoires sur terre. quand je dis que nous devrons prendre notre croix, il est clair que, dans l'ensemble, Jésus-Christ a porté la croix pour nous tous. Et cela veut simplement dire que nous devons aussi faire notre part. Nous ne pouvons pas échapper à tous les problèmes, à tous les soucis, à toutes les attaques qu'il se profile maintenant autour de nous de plus en plus tous les jours. Donc, en quelque sorte, nous devons aussi prendre nos responsabilités. On raconte souvent l'histoire du grand empereur romain Constantin, dont le cœur incliné vers les chrétiens. Or, la veille d'aller combattre des puissantes forces ennemies, il a vu une grande croix dans le ciel et il a reçu ces paroles, et cela en latin. « Tu vaincras par ce signe. » Et là, l'empereur savait que c'était le symbole des chrétiens. Et c'est avec ce signe-là qu'il est parti au combat et Dieu lui donna une victoire glorieuse. Ce jour-là, il est devenu un véritable chrétien. La croix est encore aujourd'hui le signe de la victoire. Saint Paul disait qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Galates, chapitre 6, verset 14. C'est en pratiquant l'obéissance, en prenant notre croix, que nous sommes crucifiés au monde. Seul l'amour nous fera accepter la crucifixion. Lui seul, Jésus-Christ, nous rendra capable d'observer son commandement. Renonce à toi-même et prends ta croix et suis-moi. Dans le désert, Dieu grava ses commandements sur des tables de pierre et celles-ci furent placées dans l'arche de l'Alliance à l'intérieur du Saint des Saints. Il n'en est plus ainsi à présent. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit Saint du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Aujourd'hui, la loi de Dieu, elle est écrite sur nos cœurs de chair. C'est seulement sur un cœur tendre et sensible à son égard qu'il peut écrire ses lois. Notez Hébreux chapitre 8, verset 10. Là, l'auteur déclare, « En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur et je leur serai pour Dieu et ils me seront pour peuple. Je leur serai pour Dieu et ils me seront pour peuple. » Gloire à Dieu. Quand Jésus nous a ordonné d'aimer, il ne nous a pas demandé l'impossible. Il demande simplement quelque chose d'absolument naturel pour un enfant de Dieu qui a la pensée de Christ et un cœur, un esprit de chair. La loi de Dieu, a été écrite dans notre cœur et esprit, et c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Jésus a dit que c'est du cœur que sortaient le bien et le mal. Saint Matthieu, chapitre 15, versets 18 et 19. Notre vie traduit ce qui est gravé dans notre cœur. Il ne sert à rien de prétendre être ce qu'on n'est pas. L'expression même de votre visage reflète en quelque sorte votre identité. Et même si vous le cachez derrière un voile, les vibrations sortiraient de vous et révéleraient ce que vous êtes. La plupart des gens, toutefois, trahissent leur véritable nature en ouvrant la bouche. D'autres, par contre, font preuve de beaucoup plus de finesse. Ils savent dire les bonnes choses au bon moment. Mais si vous attendez assez longtemps, eh bien le témoignage de la vérité finira par sortir en bien ou en mal. La loi de Dieu demeurait dans l'arche de l'Alliance. C'est là aussi que résidait la Shekinah. Quand notre cœur devient arche de l'Alliance, parce qu'il abrite la loi de Dieu, la Shekinah de gloire, elle vient aussi pour demeurer sur nous. Et deuxièmement, l'amour sauve. En effet, le cœur de Dieu manifeste la même grâce et patience chaque fois qu'il se penche pour sauver l'un de ses précieux joyaux. La plupart d'entre nous ignorent la peine qu'il ressent à l'idée que nous sommes perdus. Nous ne réalisons pas non plus dans quelle saleté et déchets nous nous trouvons quand finalement, après des années d'amour et de patience, il nous saisit dans le gouffre où nous avons glissé et nous en retire pour nous ramener dans la sécurité de ses bras d'amour. Jésus a essayé, oui, il a essayé de nous l'expliquer en termes que nous pourrions comprendre dans la parabole du bon berger. Cette parabole qui, ayant perdu, vous rappelez, une précieuse brebis, laisse les 99 autres brebis pour chercher la brebis perdue, ou dans celle de la femme qui avait 10 pièces d'argent et elle en perd une. Elle allume une lampe, va balayer et fouiller soigneusement la maison jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Voyez-vous, l'amour vous fera quitter votre route pour aller au secours de quelqu'un. Il vous donnera la force et la grâce de prendre du temps pour chercher l'âme perdue et la ramener à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'amour prend soin du fils prodigue, le fils prodigue égaré, qui revient chez lui, il revient à la maison du père et le père organise une grande fête de bienvenue à l'être perdu et sincèrement repentant. L'amour vous poussera à faire des choses que vous ne feriez jamais en temps normal. Je voudrais là attirer votre attention sur une remarquable histoire d'amour et de salut de l'Ancien Testament, celle de la très belle Abigail. Si seulement nous pouvions voir la force de l'amour, nous comprendrions mieux la puissance de son salut. Abigail demeurait dans ses collines. Elle reçut un jour une merveilleuse révélation d'amour. Elle n'avait jamais vu David. Elle en avait seulement entendu parler. Mais, voyez-vous, le récit de ses grandes victoires avait carrément touché son cœur. Et lorsque 10 000 femmes chantaient les louanges de David et dansaient dans les rues des villes d'Israël pour célébrer le retour du champ de bataille du capitaine de l'armée, cette femme s'est jointe à celle-ci-là qui dansait et célébrait, et elle a même pu aller dans sa tente pour louer l'Éternel d'avoir envoyé un sauveur qui les délivre de la main des Philistins. Oui, elle a remercié Dieu, elle a remercié le Seigneur, Dieu, pour l'homme qui avait osé affronter le cruel et abominable Goliath. À aucun moment, elle n'a réalisé qu'elle aurait un jour l'occasion de faire la connaissance du héros. Et jamais, elle n'avait même imaginé qu'elle deviendrait sa femme et irait vivre au palais du roi. Ce David était le chef de l'armée d'Israël et faisait l'admiration des foules. De plus, il était marié à l'une des filles de Saül. Qui était-elle donc? Qui était-elle, cette petite femme du désert? Il n'aurait même pas un simple regard pour elle. Elle était tout à fait quelconque. Mais voilà, un jour, une rumeur envahit les collines, une rumeur selon laquelle Saül s'était mis à haïr tellement David et l'obligeait à fuir vers le désert de Judée. Et elle apprit plus tard comment Saül cherchait à lui ôter la vie, à le tuer. Et bien des fois, elle avait dû prier « Ô Dieu éternel, protège cet homme que tu as oint pour devenir roi. » Et puis, voilà, soudain, toute sa vie s'est trouvée impliquée dans cette situation. L'une de ses servantes, elle est venue pour lui dire « Maîtresse, j'ai de mauvaises nouvelles à t'annoncer. David et ses hommes sont dans les collines tout près de nous. Nous gardions les troupeaux de moutons du maître dans le désert. Et voilà que David et ses hommes étaient là aussi. Nous avons fait connaissance et ils se sont montrés très gentils avec nous. Ils nous ont protégés des dangers qui règnent dans ces contrées désertiques. À présent, David a envoyé un de ses hommes à ton mari pour lui demander de la nourriture, car ses soldats ont très faim. Mais notre maître était tellement furieux. Il était rempli de haine et il s'est moqué d'eux. Il a même dit qu'il ignorait qui était ce David. Or, il le connaissait, mais il n'a pas voulu le reconnaître. Il a renvoyé les hommes sans leur donner quoi que ce soit, et je crains que ton mari ait agi en insensé et qu'il fasse venir sur nous tous, de sérieux problèmes, de grands malheurs. Il faut donc que tu fasses quelque chose, absolument. La responsabilité de nombreuses vies reposait donc soudainement sur les épaules d'Abigail. Si vous aimez, le Seigneur placera sur vous la responsabilité de sauver d'autres vies. La décision qu'elle allait prendre en cet instant affecterait l'existence non seulement de sa famille et de ses serviteurs, mais aussi celle de beaucoup de gens en Israël pour les siècles à venir. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Elle devait donc s'opposer, en quelque sorte, à la volonté de son mari pour sauver des vies. En fait, elle n'osait même pas le prévenir de ce qu'elle allait faire, car il l'en aurait totalement empêché. Pire peut-être, il l'aurait battu, car il s'appelait Nabal, ce qui veut dire insensé. Comment un insensé peut-il avoir la sagesse pour sauver des âmes? C'est sans doute pour cela qu'il portait ce nom-là. Peut-être n'avait-il jamais suffisamment aimé pour se préserver de la folie. Or, l'amour a donné à Abigail de la sagesse, parce que l'amour a de la sagesse. Elle réunit donc du pain, de la viande, du vin, du blé, des figues et des raisins, et sortit à la rencontre de David. Quand elle le vit, il était déjà en route, oh là là, et il avait le cœur plein de colère et de vengeance. Il était décidé à tuer son mari et peut-être même toute la maisonnée. Alors, Abigail tomba aux pieds de David en disant « À moi, toute la faute, Excellence, à moi seul. Permets-moi toutefois de te parler. Écoute ce que j'ai à te dire. Ne t'occupe pas de Nabal. C'est un vaurien qui mérite bien son nom, car il s'appelle Nabal l'abruti, et il est vraiment une brute. Quant à moi, Excellence, je n'avais pas vu que tu nous avais envoyé quelqu'un de tes compagnons. Mais maintenant, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, le Seigneur lui-même te retient d'en venir au meurtre et de te faire justice toi-même. Excellence, que tes ennemis et ceux qui te veulent du mal subissent le même sort que Nabal. Accepte les cadeaux que je t'apporte, qu'ils soient répartis entre les jeunes hommes qui t'accompagnent. Veuille aussi me pardonner ma faute. En effet, je suis sûr que le Seigneur accordera pour toujours le règne à ta famille, car tu participes aux guerres du Seigneur et on ne pourrait trouver aucun mal en toi tout au long de ton existence. Un homme s'est mis en tête de te poursuivre. Il veut ta mort, Excellence. Mais le Seigneur, ton Dieu, protégera toujours ta vie en la gardant auprès de lui, tandis qu'il rejettera au loin la vie de tes ennemis comme avec une fronde. Lorsque le Seigneur accomplira tous les bienfaits qu'il t'a promis et fera de toi le chef d'Israël, il ne faudrait pas que tu aies la conscience tourmentés par le remords d'avoir tué inutilement quelqu'un et d'être fait justice, de t'être fait justice toi-même. Donc, Excellence, quand le Seigneur t'aura accordé le bonheur, souviens-toi de moi. C'est la Sainte Bible en français courant que je viens de vous lire. Chers amis, cette prophétie est l'une des plus belles de la Bible. Le plus merveilleux, c'est qu'elle n'a pas du tout été dite par un prophète célèbre. Elle a été prononcée par une simple maîtresse de maison que personne n'avait jamais entendu prophétiser auparavant. Mais ces paroles jaillissaient d'un cœur et d'un esprit rempli d'amour. Et on voit qu'un cœur rempli d'amour possède l'autorité d'annoncer la sainte parole de Dieu. Ce n'est pas tant notre degré de connaissance universitaire, et j'en passe, qui nous revêt de l'autorité de Dieu, c'est d'avoir un cœur et un esprit remplis de son amour, de l'amour du Dieu vivant. L'amour doit inspirer tout ce que nous essayons d'accomplir. Nous ne devrions jamais chercher à faire quoi que ce soit pour montrer aux autres combien nous sommes bons et justes. Il nous faut sonder toutes nos actions afin de discerner si le seul véritable mobile en est bien l'amour. Car l'amour, je parle de l'amour agapé, est tout puissant, si puissant qu'il protège ceux qui le possèdent. Il protège aussi ceux que nous aimons. Abigail a pris toute la condamnation sur elle. Ah, quelle femme, quel amour. Elle a dit, à moi seule, toute la faute. Nous savons qu'elle n'était en rien à blâmer. Mais en vérité, vous ne pouvez obtenir miséricorde pour quelqu'un qu'en prenant sur vous-même la faute. Vous devez vous identifier à l'échec de l'autre. Son mari était un homme pervers et cruel. Elle n'a pas mentionné sa cruauté. Elle a seulement mentionné sa folie. S'il était fou, il devrait être exaucé, c'est-à-dire excusé, pardonnez-moi. Et je le répète, si quelqu'un est pas tout à fait en ordre dans sa tête, on appelle ça aussi être fou, insensé. Il doit donc être en quelque sorte excusé. Parce que si on essaye de comprendre, ce n'est pas sa faute. Et en prenant le blâme totalement sur elle, elle a ainsi montré à David le grand amour et la beauté de son âme et de son esprit. Aussi, son cœur en a été touché. David en a été profondément touché et il a remis son épée au fourreau. Et c'est sous l'onction qu'elle a pu dire que la vie de David était sans reproche devant Dieu. Oui, seul l'amour parfait peut trouver l'être humain irréprochable. En lisant les psaumes de David, j'ai été frappé de voir combien d'ennemis cruels voire même mortel, que David avait. Pourtant, sa vie, elle montre vraiment le parfait amour. Il était toujours protégé, en quelque sorte, de façon, on peut bien dire, surnaturelle, parce qu'il avait un cœur rempli d'amour. La fameuse version Darby, qui est excellente, cette version déclare « Un homme s'est levé pour te poursuivre et pour chercher ta vie. Mais la vie de mon Seigneur est liée dans le faisceau des vivants par devers l'Éternel, ton Dieu, et l'âme de tes ennemis. Il la lancera du creux de la fronde. » Si vous pouvez aimer, chers amis, comme David a aimé, c'est-à-dire d'un amour parfait, votre vie sera alors cachée dans le faisceau des vivants avec le Seigneur, votre Dieu. N'est-ce pas là la plus merveilleuse protection qui soit? Ma prière est que seul l'amour nous contrôle. Si nous sommes poussés par autre chose que l'amour, nous devenons un couteau dans les mains du diable, et c'est nous qui souffrirons, même si l'autre a tort et que nous avons raison. Donc l'amour d'Abigail a sauvé la vie de sa famille et de ses serviteurs. Il a même sauvé celle de son mari Nabal. Toutefois, voyez-vous, c'était son heure et Dieu l'a repris. Il l'a frappé et Nabal est mort 10 jours plus tard. Or, quand David a appris cette nouvelle, il a tout de suite envoyé chercher Abigail pour qu'elle devienne sa femme, pour qu'elle puisse devenir son épouse. Oui, elle a commencé à jouir de la sécurité et de la bénédiction du roi. La prophétie qu'elle avait donnée est devenue la sienne. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand on donne une prophétie à quelqu'un. Un jour, peut-être, cette personne partagera même votre vie, va savoir. Chers amis, pour terminer, je ne critique pas les déserteurs, mais je pense que c'est par amour qu'un homme ira au front, dans l'enfer du combat, pour sauver son pays de la destruction et des attaques de l'ennemi. L'amour poussera une mère à traverser une maison en flammes pour en arracher son bébé. L'amour vous fera aller au bout du monde pour secourir les désespérés et soigner les mourants. L'amour renouvellera notre compassion pour les perdus. Il est donc temps pour l'Église de jeter la corde de sauvetage dans la sombre vague. Et il y a un frère, une sœur à sauver. Le frère, la sœur de quelqu'un. Oui, qui aura le courage de jeter le cordage et de partager son péril? Bientôt le temps des secours prendra fin. Bientôt, ils dériveront vers les rives éternelles. Hâte-toi, mon frère, ma sœur, ne tarde plus, mais jette la corde et sauve-les aujourd'hui. J'ai l'impression, chers amis, que nous sommes moins préoccupés de sauver des hommes que d'allonger la liste des membres de notre Église ou d'augmenter nos foules et devenir célèbres. Nous avons besoin d'un nouveau baptême d'amour qui mettra sur notre cœur et notre esprit le fardeau des âmes et qui nous donnera la qualité d'amour qui sauve les pécheurs de l'enfer. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Seigneur, notre Dieu, aide-nous à compter sérieusement nos jours. Fais-nous sentir combien nous sommes insensés de voir se succéder les années sans que nos cœurs deviennent vraiment sages. Dans ta bonté paternelle, tu as voulu qu'un jour fût parmi tous les autres destiné à nous rappeler la brièveté et la rapidité de la vie. Mais combien peu nous savons profiter de cette faveur-là. Cette journée que nous devrions passer dans le recueillement, dans les réflexions sérieuses et salutaires, nous la donnons toute entière au monde, à ses intérêts frivoles, à ses préoccupations éphémères et à son agitation et l'agitation de ce monde remplace malheureusement pour nous de douces et pieuses méditations. Ô notre Père céleste, aie donc pitié de nous et rends-nous plus attentifs à ce qui est pour nous la seule chose nécessaire. Donne-nous le désir de t'être fidèle et de nous approcher de toi. Accorde-nous la grâce de mieux employer cette année que les années précédentes. Garde nos âmes et nos cœurs, et que nous apprenions à chercher de plus en plus en toi seul, le bonheur sans mélange, la paix que rien ne peut ravir, et les forces nécessaires pour supporter les épreuves et les luttes de la vie. Seigneur, voilà nos âmes rachetées. Voilà nos cœurs. Purifie-les et que ton amour soit le creuset où toutes nos affections deviennent pures et saintes. Voilà nos vies. Dispose-en selon ta volonté. Que nous soyons à toi maintenant et à toujours. Que nous puissions te servir et te glorifier. Que ta main nous garde dans toutes nos voies. Que ta grâce nous défende contre tout péché. Et que pendant cette année qui commence, qui est déjà bien en route, toutes choses soient faites nouvelles pour nous. Que sera-t-il de nous dans un an, à pareil jour, et peut-être à cette même heure? Toi seul, tu le sais. Et nous l'ignorons. Et nous allons avec insouciance au-devant de notre destinée, sans même penser à ce qu'elle sera. Si la mort vient pour nous surprendre, lorsque nous sommes égarés loin de toi. Oui, pardonne, Seigneur, pardonne à tes pauvres créatures. Tu as daigné leur donner un sauveur, et ce sauveur est ton propre Fils bien-aimé. C'est l'image visible de ta majesté sainte. Ah, que tous nous sachions par ta grâce, trouvé au pied de sa croix, de la croix de ton fils bien-aimé, un refuge assuré, et que lui seul, comme à toi et au Saint-Esprit, soit adoration à jamais. Amen. Et chers amis, Dieu voulant, demain matin, la suite de cette série, merveilleuse série, Dieu, ce grand amour, l'amour de Dieu. À bientôt donc, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.